pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans une dizaine de jours, ce sera un moment important en France pour l'économie. Car la façon de calculer la croissance, une indication que tous suivent avec le plus haut intérêt, va changer. À partir du mois de mai, confirme un article du Monde, le trafic de drogue sera en effet intégré au PIB, censé mesurer donc la croissance d'un pays, c'est-à-dire la quantité de richesses produites chaque année. La demande vient d'Eurostat, l'Institut européen des statistiques, qui souhaite que tous les pays de l'Union comptabilisent le trafic de drogue et la prostitution dans leur calcul du PIB pour harmoniser les données fournies par les États. Mais ce n'est pas seulement pour la beauté de l'harmonie, c'est aussi parce que la contribution de chaque membre de l'Union au budget européen dépend pour partie de son PIB. Dans les colonnes du Figaro, Ronan Mailleux, qui est responsable du département des comptes nationaux, explique, je cite, qu'en dehors de toute considération morale, la question a longtemps fait débat. Car pour calculer le PIB, on doit retracer toutes les transactions commerciales dites librement consenties. Or, la drogue, dit-il, est dans une zone grise, la dépendance est très marquée, son commerce n'est pas vraiment librement consenti. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la France a tant tardé à rejoindre cette chouette bande d'ailleurs. Le libre arbitre d'un côté, la morale de l'autre, ça se tient. La Suède et les Pays-Bas ont fait figure de pionniers en la matière puisqu'ils ont intégré depuis bien longtemps ces deux facteurs dans le calcul de leur PIB. L'Italie et la Grande-Bretagne s'y sont mis en 2014. Ils incluent aussi la prostitution dans ce calcul, ce que la France refuse toujours de faire aujourd'hui. Leur PIB s'en est trouvé bien dopé, cocaïné en quelque sorte, puisqu'en Angleterre par exemple, l'industrie de la drogue représentait en 2014 5,4 milliards d'euros. Selon toujours le même Ronan Mailleux, le PIB de la France devrait donc gagner cette année quelques milliards et à environ 0,1%. Point de croissance. Pendant ce temps, à Marseille, dans les quartiers nord, les jeunes entrent dans les réseaux à l'adolescence et leurs mères font tout ce qu'elles peuvent pour les récupérer par les cheveux avec diplomatie ou manu militari, comme on l'entend dans cette histoire à deux voix ou ce double récit, comme on préfère, raconté par Pascal Pascariello, la mère et le fils, dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, une mère contre les dealers, comment sortir du réseau.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Mali, j'ai 48 ans. Je suis agent de propreté. J'avais 10 ans quand je suis arrivée au quartier, donc j'ai étudié dans le quartier, j'ai grandi effectivement dans le quartier, je me suis mariée dans le quartier, et j'ai eu mes 5 enfants, tous dans le même quartier. C'est un quartier qui était super bien, tout se passait très bien, et puis ces derniers temps que ça a dégénéré un peu au niveau de l'encadrement des jeunes. Il y a beaucoup de trafic de drogue. On s'inquiète beaucoup pour nos enfants parce que même s'ils ne veulent pas rentrer dedans, ils sont incités et ils se trouvent à l'intérieur. Tous les jours pratiquement, la police passe. Et ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Et on a l'impression que ça empire de plus en plus. Donc on ne sait pas si ça va finir un jour. Là où j'habite, ceux qui vendent la drogue, ils sont dans le bâtiment. Quand on passe devant eux, quelquefois on a peur parce que ce n'est pas les mêmes personnes tous les jours, ça change de personne. Deux fois, je ne sais pas si je dois leur dire bonjour ou pas, mais il vaut mieux ne pas rester à faire la conversation. Il ne faut pas qu'on soit ennemi ni ami. Il faut qu'on soit entre les deux. Parce que si par exemple j'essaye d'être ami, s'ils sont suivis par la police ou quoi, ils peuvent venir taper chez moi tranquillement, ce qui est déjà arrivé. Voilà. J'ai entendu taper, j'ai regardé par les jumelles, comme je ne connais pas la personne, j'ai dit, mais c'est qui? Il me dit, ouvrez-moi s'il vous plaît, madame, il y a la police en bas. Donc j'ai dit, non, je ne peux pas ouvrir. Et du fait aussi de ne pas ouvrir, c'est une peur. Parce que est-ce que demain, il ne va pas m'attraper dehors, me dire, oui, je suis venue chez toi, j'ai tapé, tu n'as pas voulu m'ouvrir. Et si j'ouvre, ça risque de tomber contre moi. Donc c'est des décisions vraiment difficiles à prendre. Et le matin, je me suis levée pour aller au travail à 4h30 du matin. Je descends. Bien sûr, j'ai peur quoi, de descendre toute seule. Et quand je suis descendue, il y avait plusieurs traces de sang par terre. Imaginez si je descends avec les petits et qu'ils voient ça. Comment vous allez expliquer ça à des petits de 7 ou 8 ans? C'est l'enfer. C'est effrayant. C'est angoissant. Et c'est inquiétant pour mes petits. Moi, j'essaie de me battre comme je peux, c'est-à-dire l'éducation. Déjà, j'ai un fils où j'ai mis, depuis tout petit, je l'ai mis dans beaucoup d'activités, justement pour ne pas voir toutes ces choses. Voir, on ne peut pas l'interdire parce que c'est dehors, c'est voyant, mais d'aller passer une journée, par exemple, au centre social, ça évite déjà quelques heures de ne pas voir ces choses-là. Donc après, il y a les activités sportives et donc j'essaye de garder un peu plus à la maison ou sortir moins avec eux. Mais il est vrai qu'il arrive un certain âge, on ne peut plus les garder, surtout un garçon. Moi, ce qui est arrivé, c'est mon fils, d'après sa version à lui, il est rentré dedans parce qu'il avait cassé une moto de son collègue. Donc son collègue, il a persuadé que pour pouvoir le rembourser, eh bien, tu vas travailler là quelques heures dans ce trafic de drogue, cocaïne, voilà, c'est des suites. Il s'appelle Almas. À l'époque, il avait l'âge de 17 ans. C'était en mai 2016. Donc, il a vendu la drogue là. Il s'est fait attraper au quartier nord. Et je ne l'avais pas vu de toute la nuit. Je me suis inquiétée parce que c'était la première fois. En général, même s'il dort chez un collègue, il m'avertit. Et là, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois sur le téléphone, rien. Et le matin, à 6 heures du matin, on est venu taper à la porte, très 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 fort. Et de suite, j'avais compris que c'était la police. Je ne sais pas, on ne m'a pas dit, mais j'avais compris. La police, ils étaient trois, et mon fils avec, menotté. Ils sont rentrés dans la maison. Ils n'ont pas vraiment fait la fouille. Parce que pour eux, ils avaient dit que c'est la première fois qu'il fait ça. Donc, ils savaient très bien que ce n'était pas son domaine. Mais on est obligé de suivre la procédure, c'est de venir vous l'amener, récupérer ses papiers d'identité. Et ils sont repartis. Ils m'ont dit à tel endroit où je dois aller le voir et passer devant le juge. Bien sûr, j'étais très choquée, très déçue. Parce que c'était une chose que je ne m'y attendais pas. Et surtout, jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi. Pourquoi? Moi, quand je l'ai vu la première fois qu'il me l'a amené, me noté, le prendre dans mes bras, ça n'était pas mon première envie. Mon première envie, c'était de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, et de savoir pourquoi surtout. Moi, je le regardais en face. Je lui demande qu'est-ce que tu as fait à plusieurs reprises. Il ne m'a pas répondu. Mais c'est la police qui a répondu à sa place. Et pourquoi tu as fait ça? Il me dit comme ça, excuse-moi maman, je vais t'expliquer. J'ai dit comme ça parce que tu en manques de rien. Malgré que je gagne pas des millions, mais j'ai toujours fait le nécessaire, que tu as tout ce qu'il te faut. Et puis après, c'est là que la police a pris le relais et qu'ils ont dit ce qu'il avait fait, pourquoi est-ce qu'il avait arrêté. Comment ils m'ont dit le mot exact? Ils m'ont dit, on l'a attrapé en train de vendre des stupéfiants. Voilà. Donc moi, je n'avais pas très bien compris le mot. Il me dit, oui, il a vendu de la drogue, la cocaïne et le shit. Voilà. Et qu'en plus, il n'avait même pas essayé de s'échapper. Il s'est laissé faire. Pour moi, j'ai dit, c'est fini, quoi. Je me dis, c'est fini, et il va se retrouver en prison. Et il y a une chose que j'ai sortie, et c'est une chose que je l'ai redit. J'ai dit, moi, si tu vas en prison, ne compte pas sur moi de venir te voir. Tu l'as cherché, et bien tu vas l'encaisser jusqu'au bout. Voilà. Je l'ai dit, ça, je l'ai bien dit devant la police. Le plus choquant, c'est quand je suis partie devant le juge. Donc, il l'amène devant le juge, bien sûr, qu'il était vraiment bien menotté. Parce que menotté à les bras, menotté les pieds, au niveau de la hanche. Des fois, je suis dans le bus comme ça, tranquille. Et cette image me revient. Et non, c'est une image que j'oublierai jamais. Je me dis, qu'est-ce qu'il a fait, mon fils, pour entrer dans une affaire pareille. C'est une image que j'oublierai jamais. Et puis moi-même, je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté pour que ça bascule comme ça. J'avais la colère. Mais la colère que moi je mène contre lui, c'est l'amour qui est à l'intérieur. L'amour, ça ne meurt pas. Qu'on me pardonne, mais j'ai encore cette colère un peu, parce que le soir, je ne dors pas tranquillement. Je me dis, est-ce qu'il va arriver quelque chose encore? Et c'est tous les jours pareil, hein, tous les jours. C'est une angoisse qui ne part pas. Il y a la colère, il y a la haine aussi, il y a la honte. Et puis après, vous avez tous les voisinages qui regardent, qui s'opposent. Pas qu'ils se posent de questions, parce qu'ils savent très bien c'est ce qui arrive dehors, tous, mais on est quand même très gênés. Moi, j'étais gênée sur le point qu'il y a eu des petits, des enfants de l'école primaire, puisqu'on a juste l'école primaire à côté, et il y en a que mon fils s'occupe d'eux, parce qu'il est entraîneur de foot, donc les enfants, ils sont allés dire à sa petite sœur, lui dire comme quoi on a vu la police, ils ont arrêté ton frère. Voilà, donc ça m'avait beaucoup dérangé. Parce que quand ils étaient venus, la police à la maison, les enfants, ils dormaient encore. Et Dieu merci, ils n'ont même pas entendu le bruit, ils n'ont même pas entendu qu'il y avait la police dans la maison. Donc ça m'avait laissé un peu un soulagement. Mais finalement, elles l'ont apprise dehors. C'est drôle parce que le premier jour, ils m'ont rien dit. Le deuxième jour, ils m'ont rien dit. Mais c'est à partir du troisième jour que l'autre, il demande, « Mais il est où, Almas ?» Et sa sœur, il dit, « Mais tu sais pas, la police l'ont pris. » Donc, elle est venue me voir. Elle m'a dit, « Maman, c'est vrai qu'ils ont pris Almas ?» J'ai dit, « Mais non, faut pas écouter des histoires comme ça. » Donc, je l'ai fait croire comme ça et ça s'est arrêté là. Et ce qui nous a sauvés, c'est parce que le lendemain, après, il est rentré. Il a été juste en garde à vue. Mais s'il n'était pas rentré, il aurait fallu que je cherche autre chose à leur expliquer, quoi. Voilà. Je suis allée au tribunal parce que, comme c'était une première fois, je me dis, je vais aller voir et écouter réellement la conséquence. Parce que quand ils m'ont dit qu'il faut venir, j'ai dit, je ne viens pas. Ils m'ont dit, vous êtes obligé parce qu'il est mineur. J'ai dit, je ne viens pas. Il s'est mis dedans et bien il se démerde. Donc, ils ont insisté. J'ai dit, bon, je peux venir pour écouter les faits. Voilà. C'est ce qui m'a fait partir pour écouter les faits. Qu'il avait emprunté la moto de son collègue et c'est pas en fer. Donc il a cassé la moto et son collègue lui a dit, eh « Puisque tu as cassé, il faut que tu me rembourses une somme. » Et il a dit, « Je ne peux pas te rembourser cette somme. » Il a dit, « Ah oui, comment on va faire ?»« Va dire à tes parents. » Et il a dit, « Je ne peux pas dire à mes parents parce que déjà ma mère, elle travaille dur. Donc je ne peux pas aller lui dire de me rembourser, de me donner une telle somme. Et donc il a dit, eh bien, si c'est comme ça, eh bien, tu vas travailler. Donc pour lui, il croyait que c'était une bonne chose, qu'il ne se ferait pas attraper, tout ça. Comme c'est la première fois, il s'est dit que ça allait passer. Voilà. Et il l'a fait une fois, il s'est fait attraper. La police, bien sûr, a pris la drogue qu'il avait en possession, plus la somme d'argent. Il a été relâché. Il est revenu au quartier et le jeune l'a encore attrapé. Il a dit, ah, maintenant ta dette, elle augmente. Parce que vu que tu avais la dette de la moto, plus la dette que tu as, qu'on t'a pris dans le sac, eh bien là, maintenant, je te donne 2 jours de travail et tu rembourses la totalité et c'est bon et je ne t'embête plus. Quand c'est arrivé la deuxième fois, là, j'ai dit non, là, cette fois-ci, je ne veux pas m'investir. Mais ce sont ses collègues qui sont venus me voir, qui m'ont expliqué, non, ce n'est pas de sa faute, c'est telle chose qui s'est passée, donc il était obligé. Mais là, on va trouver la solution pour régler la somme, tout ça, pour qu'il s'en sorte de cette impasse. Donc tous ses collègues se sont investis, ils sont allés voir le réseau de drogue pour aller poser la question sur lui, comment il a fait pour rentrer, comment ça se fait que ça s'est passé ainsi, et depuis quand on rembourse de l'argent perdu. Parce que dans le réseau, il y a plusieurs patrons. Il y a les patrons les plus bas, ensuite au milieu, en haut, et ainsi de suite. Donc il y en avait un qui était haut placé, qui dit quoi? Répète-moi ce que tu dis. Ben, le petit s'est fait attraper avec votre marchandise, et plus l'argent qu'il avait fait la journée. Et maintenant, on lui demande de rembourser, sinon on le menace de le tuer. Il a dit, qui a dit ça? Il a dit, eh ben, c'est telle personne, telle personne. Il a dit non, la marchandise perdue, c'est de la marchandise perdue. Donc on ne va pas attaquer. Mais je vais m'arranger d'aller voir celui qui a dit ça, je vais régler le problème. Et finalement, ça s'est arrangé parce que si j'ai arrivé à une dette quand même pour moi en tant que mère qui travaille, en tant que femme de ménage, c'était quand même assez important parce que j'arrivais d'aller 1500 euros à rembourser au réseau de drogue. Donc j'ai essayé d'aller en parler pour voir si on peut le rembourser en 2 fois ou en 3 fois. Et puis finalement, plusieurs jours après, ils ont répondu comme quoi il n'y a pas de remboursement à faire, c'était la marchandise perdue. Et ça s'arrête là. Et d'ailleurs, on ne veut même plus le voir. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Voilà. Et à partir de là, quand il a entendu que cette affaire-là était finie, il était soulagé, effectivement. Parce que je pense qu'il avait peur même de sortir dehors pour que le jeune concerné l'attrape. Mais comme ils se sont occupés de lui, donc il avait plus confiance. Et depuis, il n'a jamais fait des choses sur le trafiquant. On le voit quelquefois que cette personne-là va aller dans tel chemin. Mais lui, c'était pas du tout ça. J'avais pas du tout vu ça. En plus, c'était un garçon très feignant, très paresseux. Donc, je me suis toujours dit, Dieu merci, mon fils, il est feignant et paresseux. Il rentrera jamais dans une affaire pareille parce que c'est pas fait pour lui. D'ailleurs, quand il s'est fait arrêter la première fois, il est resté comme ça. Ils l'ont pris. Ils ont même pas couru la police pour le prendre. Donc, c'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui qu'il a arrêté aussi, que ça continue comme ça. Et donc maintenant, je pense qu'il a compris. Il mène sa vie normale. Il a continué son école tranquillement. Il a obtenu ses diplômes, il a passé son BAFA, il s'occupe des petits au quartier. Et je remercie Dieu parce que ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à s'en sortir.
Transculture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Almas, j'ai 19 ans et voilà, arrivé un moment, j'ai un peu dérivé parce que j'étais tenté pour faire ça. Tous les jours, je marchais dans le quartier, je voyais le trafic, font 50 000 par jour, un truc comme ça. Des gens, ils faisaient des sous sans rien faire. Donc moi aussi, je me suis dit, ça serait pas mal si je peux gagner des sous comme ça. Tu te poses pas trop de questions parce que ils sont gentils avec toi. Ils font juste ce qu'ils ont à faire. On voit souvent les mêmes têtes, donc après, ça y est, on commence à les connaître, on commence à devenir nos amis. En gros, c'est rien. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien. C'est un quartier comme les autres quartiers, pour moi. C'est juste qu'ils font leur travail comme nos parents. C'est tout, ça ne dérange personne. Le premier jour, j'étais guetteur. Guetteur, en gros, c'est quoi? C'est tu te mets... Et à chaque fois qu'il y a une voiture de policier en civil, ou de policier normal, ou des CRS, tout ça, eh ben ça crie. Ça crie pour avertir le vendeur, et pour que le vendeur, en gros, soit il se cache dans un appartement, soit en gros il court jusqu'à il les esquive. Et après, j'ai guetté 3-4 jours. Après, j'ai décidé de vendre, vu que la paye du vendeur elle est meilleure que celle du guetteur. Guetteur, si on fait toute la journée, c'est 100 euros et vendeur, c'est 200 euros la journée. Comme je dis, c'est comme dans une alimentation. L'autre, il vient, il dit ce qu'il va avoir, tu lui donnes et tu prends les sous, c'est tout. Et tu les ranges, les sous. En gros, tu n'es pas obligé de garder les sous sur toi. Si tu veux les mettre quelque part, tu les mets quelque part. Tu fais comme tu veux, mais à la fin, exemple, si tu as donné un stupéfiant, 300 euros de stupéfiant, ben, tu dois lui donner 300 euros en sous. C'est tout. Ça fait pas peur. Je pensais pas au risque parce que tu es pas tout seul quand tu fais ça. Il y a 2-3 collègues à toi avec toi et tout. Ça rigole. Tu penses au risque juste quand ça crie. Et tu cours, genre. Mais sinon, tu penses pas au risque. Je me suis fait attraper la veille. Et le matin, vers 7h du matin, ils m'ont ramené chez moi pour faire la perquisition. C'était dur, les menottes. Vraiment, ma mère dégoûtée. Elle parlait pas à ma mère. Elle était triste du genre j'ai mal fait mon boulot de mère, genre. Elle était pas énervée. Je peux pas être énervé quand quelqu'un se fait attraper par la police. Pour elle, elle m'a élevé pour pas que je fasse ça. Eh ben je l'ai fait. C'était un gros coup derrière la tête, en gros. J'étais triste. J'étais vraiment, vraiment triste. Limite, j'allais pleurer et tout quand je voyais ma mère comme ça. C'est une honte, en gros. J'avais pas trop le temps de penser tout ça. Mais sinon, je pensais à ma mère. Je pensais surtout à mes petites sœurs et à mon petit frère. Genre, je pensais, yo, ouais, si je rentre en prison, ils vont me manquer. Genre, je pensais à ça. Moi, j'étais pas quelqu'un qui achetait des habits. Quand j'avais des sous, j'achetais pas d'habits, moi. C'était pour moi, les sous. Je suis pas en manque d'habits, j'ai jamais été en manque d'habits. C'est pas ça qui m'importunait quand j'avais des sous. C'est l'idée d'en avoir, c'est tout. Donc ma mère, après, me faisait assez confiance. Elle s'est dit que j'allais pas faire ça. Donc quand je rentrais un peu tard, je lui sortais des excuses. Je suis parti manger avec mes collègues ou j'ai dormi chez mon collègue ou quoi. Et après, voilà. Après, quand je rentrais, exemple, je mettais direct mes habits à la machine parce que dès quand il fait froid, ça fait des feux, ça sent le feu, elle va croire des choses. Jusqu'au moment où je me suis fait attraper, elle a remarqué qu'en vrai, je l'avais menti tout ce temps-là. Les policiers sont rentrés en civil. Ça fait le guetteur, en gros, il les a pas vus. Ils ne savaient pas c'était eux. Et ça fait, moi, j'étais en train de faire les comptes, de compter les sous que j'avais en tout. Et quand je levais la tête, eh ben, ils étaient cachés devant moi. Après, j'ai couru, mais genre, c'était trop tard, ça y est, il avait déjà raté, en gros. Celui qui guettait, ça fait, moi, direct attrapé. Et si je serais allé à la porte ou quoi, eh ben, ils auraient vu c'était où la porte, et après, ils auraient tout pris, alors ça serait tout sur mon dos. J'avais beaucoup, mais en courant, genre, c'était dans ma veste, dans les poches de l'intérieur. Et en gros, je faisais tomber quand je courais. Et ça fait, je sais plus, j'avais combien en tout. Je sais plus, je me rappelle plus. Ils m'ont mis en garde à vue, 24 heures. Ils m'ont déféré au parquet. Et après, au parquet, ils ont décidé de me libérer parce que, en gros, je jouais au foot, j'étais à l'école. Je crois, la semaine d'après, j'avais stage avec l'école. J'étais au centre aéré aussi, je passais mon BAFA en même temps, donc ils se sont dit, ouais, on va le laisser. Comme je voyais les sous, je voulais encore plus de sous. Et après, j'ai continué. Je continue jusqu'à je parti à vendre et ça m'a attrapé. Même quand je suis sorti, eh ben, je voulais encore vendre. Ça fait que je vendais. Et à la fin, je me suis refait attraper une deuxième fois. Et là, j'ai dit, c'est bon, c'est pas fait pour moi. C'est à chaque fois, je me fais attraper. En plus, c'était un mois de décalage. C'était quoi? Première fois, c'était en mai. Deuxième fois, c'était en juin. J'ai honte parce qu'il y a des gens qui le savent. J'aurais des grandes personnes qui le savent. Genre, j'ai honte. Mais après, je suis content aussi parce que je me dis, ouais, je suis rentré dans ça. Il y a beaucoup d'enfants de mon âge ou même plus grands qui sont rentrés dans ça et qui n'ont jamais réussi à sortir, genre. Et moi, je me suis dit, je suis rentré, mais ça va. Genre, ça va. J'ai su m'arrêter au bon moment. Genre, j'ai su qu'à un moment, il fallait s'arrêter. Et c'est pour ça, genre, au final, j'ai pas trop de regrets. Genre, je regrette, parce que par rapport à la justice, genre, il y a des problèmes, tout ça, sursis et tout. Moi, sinon, dans ma vie, genre, dans ma vie normale, ben, je regrette pas ce que j'ai fait. Parce que, à ce moment-là, j'étais bien. Genre, comme on dit, faut pas critiquer le que t'as bu quand t'avais soif. J'étais bien, j'étais content de ce que je faisais, donc je vais pas dire que je regrette si j'étais content. Donc voilà, donc au final, même si j'ai fait ça, eh ben, je regrette rien. Il y en a, ils sont là pendant un an, ou pendant je sais pas combien de temps. Ils se font jamais attraper, ou ils se font attraper 20 fois, ils ressortent. Je sais pas ce qu'ils font avec la police. Et moi, genre en un mois, je me suis fait attraper 2 fois. J'ai dit, non, c'est bon, faut que je continue l'école. En plus, je suis un peu fort à l'école. Je vais continuer l'école, ça y est. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai mon BTS. Après, on verra pour le reste. Pour l'instant, je vise le BTS, c'est bien. Hein.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec une mère contre les dealers, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Jean-Christophe Francis. Merci à Anne-Marie Tagawa, à Mali et à Alma. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Céline Autain, notre stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une magnifique page Facebook, Les Pieds sur Terre France Culture, qui attend vos likes, vos commentaires et vos partages. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast, si ce n'est pas déjà fait, sur iTunes et maintenant également, je crois, sur Apple Store.